Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Eh bien voilà, comme vous le savez déjà, si vous étiez présent à notre dernière rencontre, je vais commencer une nouvelle série sur laquelle je travaille depuis longtemps, une série sur les origines. Je ne sais pas combien de temps exactement elle va durer. Je sais que je vais passer un peu de temps sur une introduction, puis nous nous plongerons dans Genèse 1, verset 1, et nous lirons tout le récit de la création, verset par verset, phrase après phrase, et nous laisserons le Seigneur nous dévoiler sa signification. Je vais commencer par quelques désaveux en quelque sorte, mentionner quelques points qu'il vous faudra garder à l'esprit. Premièrement, je ne suis pas un scientifique. Je ne prétends pas être un homme de science. Tout professeur qui m'enseignait les sciences dans le passé peut se lever pour en témoigner. Je suis un théologien, un enseignant de la Bible. Je suis philosophe à mes heures. Mais je ne suis pas un scientifique. Par conséquent, quand on aborde des points qui touchent aux scientifiques, je dois aller vers quelqu'un d'autre et faire confiance à leur autorité là où je n'en ai pas. En grande partie, cette étude ne sera pas une étude scientifique. En fait, ce n'est pas du tout notre intention, mais ce sera une étude de l'écriture, une étude de théologie où l'on intégrera un peu de rationnel. Deuxièmement, je ne répondrai pas à toutes les questions cette fois-ci. Je sais que ce que je ne dirai pas aujourd'hui va provoquer des questions. J'aborderai ces questions en avançant dans le texte de l'écriture. Je traiterai des questions comme l'évolution théiste, je traiterai de thèmes tels que la théorie, jour, âge, des points de vue comme le créationnisme progressif, au fur et à mesure. Mais nous ne pourrons pas parler de tout cela aujourd'hui. Et je crois réellement que vous trouverez les réponses à vos questions sur les origines en premier lieu à partir du texte de l'Écriture. Les réponses comme le créationnisme progressif, l'évolution théiste, trouvent leurs réponses dans le texte même. Donc nous y trouverons notre chemin, dans le texte de la Genèse, du chapitre 1 au chapitre 2. Et nous y trouverons des réponses sûres aux questions qui surgissent à propos des origines. Mais pour commencer aujourd'hui, j'aimerais parler du concept, en quelque sorte, mettre en place le cadre du débat que vous devriez avoir à l'esprit. C'est impératif pour nous tous, et c'est surtout crucial pour ceux qui, parmi vous, sont étudiants, que vous soyez collégiens, lycéens, ou que vous soyez dans une grande école ou dans un établissement universitaire, autre que spécifiquement chrétien. Vous allez être endoctriné sur l'évolution, comme si c'était un fait, et vous allez découvrir que ce que je vais vous dire est contraire pratiquement à tout ce que vous entendrez. Maintenant, nous allons poser le décor de ce contraste. Puis nous irons dans l'Écriture pour voir comment elle-même, elle aborde la théorie évolutionniste populaire. C'est aussi important pour chacun de nous, parce que comprendre les origines du livre de la Genèse est fondamental pour le reste de la Bible. Si la Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, ne nous disent pas la vérité, alors pourquoi devrions-nous croire tout le reste de la Bible? Si elle dit dans le Nouveau Testament que le Créateur est notre Rédempteur, mais qu'il n'est pas le Créateur, alors peut-être qu'il n'est pas le Rédempteur non plus. Si elle nous dit dans 2 Pierre que Dieu lui-même va dissoudre instantanément l'ensemble de l'univers tel que nous le connaissons actuellement, que Dieu, en un instant, va décréer toute chose, alors cela a une immense portée sur son pouvoir créateur. De même, Dieu, qui d'un mot peut décréer l'univers, est capable de le créer aussi rapidement qu'il le veut. Donc, ce que nous croyons de la création, ce que nous croyons de la Genèse, a des implications tout au long de l'Écriture, des implications liées à la véracité et à la fidélité de l'Écriture, des implications quant à l'Évangile et des implications quant à la fin de l'histoire humaine, le tout inclus dans notre manière de comprendre les origines du livre de la Genèse. Le problème des origines est donc absolument crucial pour toute pensée humaine. Cela devient crucial pour la manière de diriger notre vie en tant qu'être humain. si nous ne comprenons pas les origines, ou que notre compréhension est fausse, nous ne pourrons jamais nous comprendre nous-mêmes. Il n'y aura aucune manière de comprendre l'humanité, de trouver le sens de notre existence et de notre destinée. Si nous ne pouvons pas croire ce que la Genèse dit des origines, nous sommes perdus quant à notre but et à notre destinée. Que le monde et sa vie, telle que nous la connaissons, aient évolué par hasard, sans cause, ou qu'il ait été créé par Dieu, a des implications globales sur toute la vie humaine. Fondamentalement, il n'y a que deux options. Vous pouvez soit croire ce que dit la Genèse, soit non. Ce n'est pas une hyper-simplification. Franchement, croire en un Dieu surnaturel et créateur, qui a tout fait, est la seule explication rationnelle de l'univers, de la vie, d'un objectif et d'une destinée. Or, l'équation divine donnée par la Bible, contrairement à « personne fois rien égale tout », l'équation divine se trouve dans Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Je ne sais pas comment, on aurait pu le dire plus simplement ou plus clairement que cela. Ou bien, vous croyez que Dieu a créé les cieux et la terre. Ou bien, vous croyez qu'il ne l'a pas fait. En fait, vous n'avez de valable que ces deux options. Et si vous croyez que Dieu a créé les cieux et la terre, alors vous n'avez qu'un seul récit de la création, celui de Genèse 1. Et vous devez accepter le texte de Genèse 1 comme la seule description appropriée et exacte de cet acte créatif. Donc, de nouveau, je dis que vous n'avez le choix qu'entre deux choses. Soit vous croyez la Genèse, soit vous ne la croyez pas. Soit vous croyez le récit de la Genèse qui dit que Dieu a créé les cieux et la terre, ou vous croyez qu'ils ont évolué par la chance et le hasard. Si l'on regarde le récit de Genèse 1, verset 1, juste un instant, les mots de ce premier verset sont tout à fait remarquables. Ils montrent l'incroyable pensée de Dieu. Dieu dit dans ce premier verset tout ce qui pouvait être dit à propos de la création. Et il le dit en si peu de mots. La déclaration est précise, concise, dépassant presque une composition humaine. Un scientifique bien connu et très décoré, Herbert Spencer, est mort en 1903. Dans sa carrière, il a été remarqué pour une grande découverte, qui fut une contribution déterminante. Il a découvert que la réalité tout entière, toute réalité, tout ce qui existe dans l'univers peut se classer en cinq catégories. Le temps, la force, l'action, l'espace et la matière. Herbert Spencer dit que tout ce qui est existe dans l'une de ces catégories. Temps, force, action, espace et matière. Rien n'existe en dehors de ces catégories. C'était une découverte futée qui n'est pas intervenue avant le XIXe siècle. Maintenant, réfléchissez-y. Spencer les a même listés dans cet ordre. Temps, force, action, espace et matière. C'est une suite logique. Puis, en pensant à cela, écoutez Genèse 1, verset 1. Au commencement, c'est le temps. Dieu, la force, créa, l'action. Les cieux, c'est l'espace. Et la terre, la matière. Dans le premier verset de la Bible, Dieu dit clairement ce que l'homme n'a jamais catalogué avant le XIXe siècle. Tout ce qui pouvait être dit à propos de tout ce qui existe est dit dans ce premier verset. Alors, ou vous le croyez, ou vous ne le croyez pas. Vous croyez que ce verset est exact, et Dieu est la force, ou vous croyez que Dieu n'est pas la force qui a créé toute chose. Dans ce cas, il vous reste la chance, le hasard ou la coïncidence. C'est plus important que juste une affaire secondaire. Quelqu'un a écrit une lettre au président des hommes de parole. Et je ne veux pas particulièrement les pointer du doigt, sauf pour l'illustration très claire que leur réponse fournit. On leur avait demandé leur position au sujet de la création. L'assistant du président répondit par cette déclaration. Je le cite. « Vous devez savoir que le ministère des hommes de parole ne prend pas position sur de tels sujets. En fait, nous essayons spécifiquement d'éviter ce genre de débat. Nos efforts ont pour but de rassembler les gens sur la base des doctrines essentielles de l'orthodoxie chrétienne, telles qu'elles figurent dans notre confession de foi, ou de mettre l'accent sur les choses qui unissent le corps de Christ, plutôt que sur celles qui tendent à le diviser. Comme des églises différentes ou des individus chrétiens ont des vues différentes à propos de la création, c'est une de ces choses qui, nous le croyons, tombe dans la catégorie des doctrines secondaires, comme les dons spirituels, la sécurité éternelle, et l'enlèvement de l'Église. Bref, quand il s'agit de sujets comme la création, nous croyons que nous autres chrétiens doivent manifester de la grâce les uns envers les autres, comme le résume cette déclaration. Unité dans l'essentiel, liberté dans le non-essentiel, et amour en tout. Fin de citation. En fait, voilà une déclaration plutôt agressive à propos de la nature secondaire d'une foi dans le récit de la Genèse, n'est-ce pas? Elle ne dit rien sur le problème, que si vous ne croyez pas au livre de la Genèse, vous ne croyez pas à la Bible. Je ne veux pas médire de cette organisation, mais simplement dire que c'est le point de vue de la majorité des chrétiens, que le monde ait été créé par Dieu, ou qu'il ait évolué par hasard sans cause, est depuis longtemps un sujet de débat. On en discute depuis Darwin, mais le débat se résume à ceci. Ou bien on croit ce que la Bible dit, ou on n'y croit pas. Soit on croit le livre de la Genèse, soit pas. Et si on ne croit pas le livre de la Genèse, alors que croit-on? Eh bien, pour la plupart des cas, on croit à l'évolution naturaliste. Certains seront des évolutionnistes théistes, qui diraient que Dieu a, comme qui dirait, donné un départ à tout, mais l'évolution a pris le relais, et ils nieraient alors que le récit de la Genèse est exact, quand il dit que Dieu a créé en 6 jours de 24 heures. Les créationnistes progressifs diraient en gros la même chose, que la création n'est pas arrivée comme la Genèse le dit, mais plutôt qu'il s'agit de longues périodes, et que Dieu s'est impliqué progressivement dans le processus, et qu'il a fait une œuvre créatrice en parallèle avec le processus d'évolution. Ces points de vue, l'évolution théiste et le créationniste progressif, nient également le simple texte du livre de la Genèse. Donc, je le répète, soit on croit la Genèse, ou on ne la croit pas. Si vous ne la croyez pas, vous avez quelques options. Vous pouvez être un évolutionniste théiste, ou vous pouvez être un évolutionniste naturaliste. Parmi les chrétiens, certains sont des évolutionnistes théistes, mais ceux qui font partie du monde des incroyants sont des évolutionnistes naturalistes. Il leur reste alors la notion incroyable que personne foi rien égale tout. Douglas Kelly, qui a écrit sur ce sujet avec beaucoup de discernement, dit « Il ne fait aucun doute que la vision biblique de l'homme, en tant que créature que Dieu a créée à sa propre image, a eu l'influence la plus puissante sur la dignité humaine, sur la liberté, sur le développement des droits de l'individu, sur les systèmes politiques, sur le développement de la médecine, sur tout autre domaine de la culture. Quelle différence, écrit-il, avec le point de vue humaniste de l'homme, comme juste une créature de l'évolution, non faite à l'image de Dieu, puisqu'il n'y a pas de Dieu. Un tel présupposé a permis aux États totalitaires marxistes de liquider, à leur convenance, des millions de leurs concitoyens, à cause de l'hypothèse qu'il n'y a aucune personne transcendante à l'image de qui ces citoyens ont été créés. Aucun être donnant une dignité à ses citoyens et un droit d'exister, en dehors de ce que l'État décide. » Fin de citation. Ce point a été étudié en profondeur par le baron Erich von Kuehnelt-Leddin d'Autriche, qui pourrait bien être le plus grand théologien du siècle sur des questions de liberté et de totalitarisme. Il a écrit un livre très important, intitulé « Le gauchisme revisité ». Depuis le Sade et Marx, à Hitler et Pol Pot, où il traite ces sujets. Il y montre que, séparé de la foi en une humanité créée à l'image d'un Dieu transcendant, la dignité qui en dérive divinement et la liberté des êtres humains disparaissent complètement. Il dit, pour les matérialistes authentiques, il n'y a pas de différence évolutionniste fondamentale, mais seulement graduelle, entre un homme et une peste, un insecte nocif. Fin de citation. Et sa conclusion est, le problème est la différence qu'on fait entre un homme créé à l'image de Dieu et le termite à forme humaine. Il a raison. Nous avons deux options. Soit nous avons évolué à partir de la boue et notre existence ne s'explique que dans un sens matériel, c'est-à-dire que nous ne sommes faits que de matière. Ou bien nous avons été créés par Dieu et faits à son image selon un modèle divin. Et le débat n'est pas que biologique. C'est ce que j'essaie de dire. Il n'est pas que biologique. Il est moral et il est spirituel. Le débat fait face à des questions concernant la dignité humaine, la nature de l'homme, à l'image du modèle divin, l'image de Dieu. Il pose des questions au sujet du contrôle, de qui est souverain dans l'univers, qui maîtrise tout. Il demande, y a-t-il un juge universel? Y a-t-il une loi morale universelle? Y a-t-il un législateur? Les gens sont-ils tenus de vivre selon les critères de Dieu? Y aura-t-il une évaluation finale de la manière de vivre des hommes et des femmes? Y aura-t-il un jugement final? Voyez-vous, ce sont là les questions que l'invention de l'évolution voulait éviter. on a inventé l'évolution pour tuer le Dieu de la Bible. Non parce que les évolutionnistes et les matérialistes n'aiment pas Dieu comme créateur, mais parce qu'ils ne veulent pas Dieu comme juge. On a inventé l'évolution pour tuer le Dieu de la Bible, pour supprimer le législateur, pour supprimer l'inviolabilité de sa loi, les normes qui règlent la pensée et le comportement humain. On a inventé l'évolution pour se passer de la moralité universelle et de la culpabilité universelle, ainsi que du fait que l'on doit rendre des comptes. L'évolution a été inventée pour supprimer le juge et laisser les gens libres de faire tout ce qu'ils veulent, sans culpabilité ni conséquence. En fait, si nous résumons simplement ces deux options, l'option matérialiste dirait « la réalité ultime est la matière impersonnelle. Il n'existe pas de Dieu ». L'option chrétienne dit « la réalité ultime est un Dieu infini, personnel et aimant ». L'optique matérialiste dit « l'univers est créé par hasard, sans objectif ultime ». L'optique chrétienne dit « l'univers a été créé avec amour, par Dieu, dans un but spécifique ». L'optique matérialiste dit « l'homme est le produit du temps impersonnel, plus le hasard, plus la matière. Il en résulte qu'aucun homme n'a de valeur éternelle, ni de dignité, ni de sens autre que ce qui en dérive subjectivement ». L'optique chrétienne dit « l'homme a été créé par Dieu, à son image, et il est aimé de Dieu. C'est pourquoi tous les hommes sont pourvus d'une valeur éternelle et de dignité. Leurs valeurs ne proviennent pas ultimement d'eux-mêmes, mais de la source qui les transcende, Dieu lui-même ». L'optique matérialiste sur la moralité dit « La moralité est définie par chaque individu selon ses propres vues et son intérêt. Au bout du compte, elle est relative, puisque chaque individu a l'autorité finale sur ses propres vues. » L'optique chrétienne dit « La moralité est définie par Dieu et immuable, puisqu'elle est fondée sur le caractère immuable et saint de Dieu. » L'optique matérialiste dit à propos de l'au-delà « L'au-delà apporte un anéantissement éternel » ou une extinction personnelle de chacun. L'optique chrétienne dit « l'au-delà implique soit la vie éternelle avec Dieu, ou une séparation éternelle de lui, soit les gloires du ciel, soit les terreurs de l'enfer. » Alors, mes amis, que je vous dise une chose, que vous adoptiez l'un ou l'autre de ces points de vue n'est pas une question secondaire, elle est primordiale, non seulement pour la science, mais pour la théologie. Comment, au monde, le christianisme peut-il considérer ces choses comme des problèmes secondaires ? C'est le fondement de toute vérité. Francis Schaeffer, l'apologète, dit que s'il avait une heure à passer avec quelqu'un dans un avion, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le Seigneur, il passerait les 55 premières minutes à lui parler de l'homme créé à l'image de Dieu et les 5 dernières minutes à la présentation de l'évangile du salut qui pourrait restaurer l'homme dans cette image originelle prévue. Le christianisme ne commence pas en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Le christianisme commence à Genèse 1, verset 1. Dieu a créé les cieux et la terre pour un but et une destinée qu'il a lui-même déterminée. Comprendre et croire la doctrine de la création dans le livre de la Genèse est fondamental. En acceptant, écoutez bien, que la Sainte Bible doit être prise au sérieux quand elle parle du monde réel. Les gens disent « bon, le livre de la Genèse est un mythe, une légende, de l'imaginaire, une allégorie et une tradition, et ne parle pas vraiment de faits réels, du monde réel. » Oui, il en parle. La parole de Dieu doit être prise au sérieux quand elle parle au monde réel de toutes sortes de sujets. Si nous évitons de traiter de ce que la Bible dit à propos de la création du monde matériel, alors notre religion aura tendance à être déconnectée du monde réel. On aura tendance à mettre l'Écriture dans une sorte de catégorie mystique, d'enfermer le christianisme dans une sorte de meule à vitraux, comme le dit Douglas Kelly, qui n'aura aucun impact sur le monde de l'espace-temps. Si vous vous mettez avec le livre de la Genèse à toucher à la nature littérale de ce texte, vous avez créé une approche mystique de l'Écriture dès le départ. Le théologien écossais, James Denny, attirait l'attention là-dessus à la fin des années 1890. Je le cite. « La séparation du religieux et du scientifique signifie, finalement, la séparation du religieux et du vrai, ce qui signifie que la religion meurt au sein d'hommes vrais. Vous ne pouvez pas prendre le livre de la Genèse, en saisir le chapitre 1, disant que c'est un conte de fées, que ce n'est pas une histoire vraie, ce n'est pas la réalité, qu'il ne reflète pas une compréhension exacte du monde réel dans un vrai espace et un vrai temps, sans avoir des implications graves sur le reste du message de l'Écriture. La doctrine de la création telle qu'elle est identifiée dans le livre de la Genèse est fondamentale. C'est là que Dieu commence son histoire. Et vous ne pouvez pas changer le commencement sans effet sur le reste de l'histoire et sur la fin. Dans la Bible, Dieu parle, et il parle dans Genèse 1, verset 1. en disant qu'il créa les cieux et la terre. Il est celui qui a parlé en Genèse 1, verset 1, et qui parle d'un bout à l'autre de l'Écriture, jusqu'à la fin. Quand vous trafiquez avec Genèse 1, vous trafiquez avec toute la parole du Dieu vivant. Vous prenez le récit de la vraie création, dans un espace réel et du temps réel, et vous en dites « C'est inexact, ce n'est pas valable, ce n'est pas la vérité, c'est une attaque grave, et ça détache l'Écriture de la réalité, ça sépare la religion, la vraie religion, de la réalité. C'est grave. C'est ce que l'évolution aime faire. Elle aime faire que Dieu n'est pas Dieu. Elle aime dépouiller l'Écriture de sa véracité. Elle veut rejeter Dieu comme législateur, comme juge, comme sauveur. Elle veut détruire la dignité de l'homme, créée à l'image de Dieu. Et cela devient plutôt ridicule, non? Selon l'évolution, l'homme est quantitativement supérieur aux animaux, c'est-à-dire qu'il a certains traits que les animaux n'ont pas, mais qualitativement, il n'est pas meilleur. Par conséquent, il est moralement faux de violer les droits des autres animaux qui sont littéralement nos frères, en parlant comme un évolutionniste. Et on entend tout cela aujourd'hui, et tout le temps, n'est-ce pas? Cette infâme organisation nommée PETA pour une éthique dans le traitement des animaux et sa directrice nationale, Ingrid Newkirk, ont émis cette déclaration célèbre. Un rat est un porc et un chien est un enfant. Aucune différence. Toutes les formes de vie supérieures, un rat étant une forme de vie supérieure à ses yeux, doivent être considérées comme égales. Nous avons une curieuse organisation, nommée l'Église de l'euthanasie, qui croit que les droits des animaux sont supérieurs aux droits humains. Un représentant de cette organisation a dit à un auditoire de la télévision, un auditoire national, que, je cite, « Si on va tuer toutes les espèces, commençons par l'espèce humaine, parce que les humains ne sont qu'une espèce inférieure, dont le rôle est mineur dans la diversité de la nature. » Fin de citation. Et on en a lu de toutes sortes. J'ai lu que des groupes de lutte pour les droits des animaux prétendent que manger de la viande est assassin. L'homme est l'espèce tyrannique. L'abattage des bovins est un meurtre. Et quelqu'un a dit que l'abattage des poulets équivaut à l'Holocauste perpétré par les nazis contre les juifs. Cette sorte d'idiotie existe parce que ces gens croient vraiment que l'homme est simplement à la fin d'une série évolutionniste d'événements arrivés par hasard, qui n'a aucun sens ni destinée et qui n'est pas créé à l'image de Dieu. Il n'est porteur d'aucune dignité de plus que quiconque le long de la ligne de ce processus d'évolution. Et vous savez quoi? Si les évolutionnistes ont raison, on ne peut plus discuter avec eux. Nous ne sommes que des animaux. Nous avons simplement évolué, et leurs arguments peuvent être valables. Tous ces avocats des droits des animaux, écrit Marvin Lubenow, qui se sont exprimés publiquement sur le sujet, sont des évolutionnistes. Selon l'évolution, c'est simplement un coup de chance que l'homme ait développé le gros cerveau. Si certaines mutations ne s'étaient pas passées chez nos ancêtres, mais au lieu de cela, chez les ancêtres des chimpanzés, nous sommes...
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.